C'était hier la journée internationale de la paix et aujourd'hui des marches pour la paix sont prévues un peu partout en France, tandis que lundi s'ouvrira la 73e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, qui veille dans ses missions à maintenir la paix dans le monde. La justice peut-elle être garante de paix? Nous avons le grand honneur d'accueillir une femme d'exception ce matin, dont la parole médiatique est rare, mais qui pense que sans justice, point de paix, et qui agit en adéquation avec ses convictions. Elle est magistrate, elle a été nommée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en juillet 2017, à la tête d'un organisme chargé de la collecte de preuves des crimes graves en Syrie. Jeudi, elle a tenu une conférence de presse pour faire un point sur l'avancée des recherches. Catherine Marquis-Huel, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin depuis les studios de Genève à l'ONU. Vous êtes chef du mécanisme international, impartial et indépendant, et je crois que les trois adjectifs sont importants. Qu'est-ce que c'est exactement? Une instance onusienne? Comment le présenter?
Alors c'est effectivement une instance onusienne créée par l'Assemblée générale en décembre 2016. Et c'est un mandat qui nous est confié, qui est véritablement innovant. Nous ne sommes pas un tribunal, nous ne sommes pas un bureau de procureur même, mais notre travail se situe, si vous voulez, entre la documentation des crimes commis en Syrie qui a pu être faite à la fois par des instances onusiennes comme la commission d'enquête pour la Syrie, mais bien d'autres entités à l'intérieur et à l'extérieur de l'ONU, Donc le pont entre cette documentation et de futurs procès.
Donc ce n'est pas un tribunal, dites-vous. Malgré tout, on pourrait presque le voir comme une amorce de tribunal pénal, en tous les cas un travail qui serait préparatoire à un ou plusieurs actes d'accusation.
Oui, de travail préparatoire, absolument. Nous nous situons, si vous voulez, dans la phase qu'un bureau de procureur doit forcément entamer avant de pouvoir procéder à un acte d'accusation. Donc c'est tout le travail de recueil de preuves, d'analyse de ces preuves et d'identification des auteurs possibles des faits pour les poursuivre, effectivement.
Je disais que les trois mots qui qualifient ce mécanisme sont importants: international, impartial et indépendant. Pouvez-vous, Catherine de Marquis-Huel, nous dire un mot de chacun?
Alors international, ben effectivement, parce que nous sommes une institution créée par l'Assemblée générale des Nations Unies. Impartial, c'est vraiment un terme très important parce que ça signifie que nous n'allons pas, nous occuper simplement d'une des parties au conflit ou de partir avec des idées préconçues sur les responsabilités par rapport à ces faits. Comme vous le savez, un certain nombre d'instances se sont prononcées avec les critères qu'elles appliquent, qui sont des critères d'établissement de faits par des commissions d'enquête. Ce sont des critères beaucoup moins élevés que les critères qui doivent présider en matière pénale. Et donc nous nous approprions ce travail avec les outils du droit pénal. C'est évidemment plus exigeant et ça va demander du temps. Ce que je voudrais dire sur l'indépendance, c'est que il est indispensable que nous ne nous approprions pas les conclusions des autres, mais que nous parvenions à nos propres conclusions sur la base des preuves recueillies et sur la base des critères que j'évoquais tout à l'heure. Indépendance, ça veut dire également ne pas accepter d'instruction de quelque parti que ce soit, de quelque État que ce soit, et ça veut dire également ne pas agir comme nous pouvons penser que certains considèrent que nous devrions le faire, mais simplement suivre le droit, suivre les preuves et ne pas se laisser impressionner par les obstacles.
Comment faites-vous pour recueillir des preuves? Sur quelles sources, quels documents vous basez-vous pour collecter ces preuves que vous êtes chargé de recueillir?
Alors, une des caractéristiques de notre situation et de la situation syrienne en général, c'est que le mécanisme n'est pas autorisé à se rendre lui-même en Syrie. Je m'efforce d'établir contact avec les autorités syriennes depuis que j'ai été nommée, mais jusqu'ici, ça n'a pas été possible. Nous procédons donc, comme le mandat l'exige, par le recueil déjà des éléments d'information et de preuves qui ont pu être collectés par de nombreux acteurs. J'ai évoqué la commission d'enquête pour la Syrie, c'est un acteur majeur, mais il y a également la société civile, à la fois internationale et bien sûr syrienne, qui avec courage et détermination a fait ce travail de recueil d'éléments d'information et de preuves. Il y a également des États qui possèdent des éléments de preuves. C'est d'ailleurs en partie pourquoi je me tourne aussi vers les autorités de la République arabe syrienne qui ont dénoncé certains crimes elles-mêmes et qui, si elles acceptaient de coopérer avec nous, pourraient nous permettre d'utiliser les éléments qu'ils ont. Mais il y a bien d'autres acteurs. Il y a, comme vous ne l'ignorez pas, un nombre très important de réfugiés syriens qui se trouvent sur un grand nombre de territoires. Et ces personnes ont, pour certaines, été directement victimes de crimes, mais ont également été témoins. Nous recueillons des éléments d'ordre, on va dire, documentaire, c'est-à-dire...
Des photos
oui, mais aussi des documents officiels, des documents qui ont pu être sortis de Syrie. Nous basons sur des photos, nous basons sur des vidéos. Nous sommes dans un monde où maintenant tout le monde, en tout cas dans cette partie du monde, a un téléphone portable, peut faire des vidéos, peut prendre des photos. Donc la preuve, elle est très très large. Elle est aussi, comme classiquement, les récits des témoins, des victimes. Elle est aussi les images satellites. Elle est aussi, pour certains types de crimes dont nous parlons en Syrie, qui recueillent une technicité dans l'investigation, quand on parle d'utilisation d'armes chimiques, quand on parle d'attaques à l'aide de certaines munitions ou de certains types d'armement, il est évident qu'il faut que la preuve recueillie aille dans des détails particulièrement technique.
Oui, puis on voit et on l'entend parfois, et en particulier en matière justement d'utilisation d'armes chimiques, Catherine Marquis-Huel, qu'il est parfois difficile d'établir les preuves. D'autant que vous disiez justement, tout le monde aujourd'hui a un téléphone portable, donc on recueille énormément de documents. Je crois que vous avez d'ores et déjà en un an collecté près d'un million de documents. C'est un conflit qui est extrêmement couvert. Est-ce que ce n'est pas un problème aussi? Comment faites-vous avec votre équipe pour départager parfois le vrai du faux?
Alors, vous avez parfaitement raison. C'est à la fois un atout, effectivement, on ne va pas se plaindre d'avoir des preuves, mais c'est aussi un défi parce que il y a évidemment, à travers ces preuves et ces éléments d'information, il y a un certain nombre de duplications. Les preuves ont été collectées de manière fragmentée. Donc, c'est un défi auquel nous essayons de pallier en utilisant les ressources technologiques de notre temps, à savoir un système de management de gestion des données que nous recueillons à la pointe du progrès. Et nous avons véritablement intégré dans nos équipes des professionnels de ce type de recueil de preuves. Il s'agit de la préserver, la preuve. Il s'agit d'accéder aux métadonnées qu'elle contient, de permettre de les retrouver, de les classer. Et c'est tout un travail de fourmi. Ce que je voudrais pas que la discussion que nous avons soit seulement technique, parce que je pense que avant tout, et c'est pour ça que nous faisons ce travail, il y a des personnes, des victimes, des crimes. Nous n'en avons pas dit grand chose encore. Si vous me le permettez, je voudrais insister sur l'ampleur de ces crimes qui ont été dénoncés et que nous avons la tâche d'établir. Nous sommes en présence de torture, nous sommes en présence d'arrestations arbitraires d'exécutions non judiciaires, nous sommes en présence d'enlèvements, de soumission à l'esclavage, y compris l'esclavage à des fins sexuelles. Nous sommes en présence d'attaques contre des écoles. Je parle là non pas de faits établis, puisque c'est notre rôle de le faire, mais je parle des allégations qui ont été faites. Des écoles, des personnels et des bâtiments d'ordre médical. Enfin, on est devant une situation qui est non seulement catastrophique sur le plan humanitaire, mais qui, sur le plan du droit pénal, est vraiment d'une ampleur que moi je n'avais pas connue, et pourtant j'ai l'expérience de situations de conflit extrêmement graves. Alors oui, en un petit peu moins d'un an tout de même, nous avons recueilli le nombre de données que vous indiquiez, puisqu'il a fallu constituer cette équipe, il a fallu, avant de pouvoir recueillir de la preuve, créer les conditions juridiques d'un tel recueil, et puis acquérir les méthodes de gestion dont je parlais tout à l'heure, des outils informatiques de pointe. C'est un défi, mais c'est en même temps une opportunité importante, et je pense que ça doit être une source d'espoir importante pour les victimes.
J'ai une question à vous poser par rapport à la volonté politique, parce qu'on se souvient de la démission en 2017 de Carla Del Ponte, qui était procureure, membre de la commission d'enquête indépendante de l'ONU sur la Syrie. Elle a démissionné en disant qu'au bout de 7 ans, rien n'avait été fait car il n'y avait aucune volonté politique. Est-ce que votre travail à vous dépend aussi de la volonté politique des États ?
Écoutez, moi, je pense que Carla Del Ponte exprimait là la frustration de ne pas avoir en face de nous une instance internationale de jugement compétente pour juger les crimes. Elle évoquait sans doute l'absence de renvoi de la situation syrienne à la Cour pénale internationale ou l'absence de création d'un tribunal. Moi, je pense que le travail que nous effectuons actuellement, qui doit être fait, même si aujourd'hui la Cour pénale était saisie de cette affaire, il faudrait qu'elle fasse ce travail que nous faisons actuellement. Donc il n'y a pas de temps perdu. Je ne ressens pas cette frustration actuellement. Je la ressens pour les victimes. Je me doute que pour les victimes de ces crimes...
C'est encore trop lent.
Exactement. Et puis le fait qu'il n'y ait pas encore de renvoi devant une juridiction internationale... Ça entraîne énormément de désillusionnement. Mais quand on sait la masse de travail qui doit être effectuée pour faire avancer ces dossiers, moi je pense que ce mandat qui nous a été confié, il est particulièrement pertinent et il est extrêmement porteur en termes d'espoir de justice.
Catherine...
Alors ces dossiers, je pense que quand nous avions été interrompus, je pense que j'essaie de vous expliquer ce qu'il vise à faire, mais je suis à votre disposition pour aborder un autre sujet, s'il vous plaît.
Non, je vous en prie, effectivement, vous pouvez continuer sur ce que vous visez, effectivement.
Alors, oui, donc je disais, en dehors du soutien aux autorités nationales qui ont des enquêtes en cours, nous devons établir des dossiers pénaux. Et cela, ça suppose devant la masse énorme, volumineuse d'allégations de crimes, ça suppose d'exercer une discrétion et d'utiliser des critères de sélection. Il serait vraiment pas acceptable et pas raisonnable de ma part de prétendre que nous aurons la possibilité de monter des dossiers pénaux sur la totalité des crimes. Le volume n'est pas compatible avec une approche comme celle-là. Donc les critères que nous avons dégagés pour ce faire, c'est d'une part évidemment la gravité des crimes, mais nous sommes en face de beaucoup de crimes qui sont très graves. Nous avons également des critères qui sont de l'ordre de la représentativité que les crimes que nous sélectionnerons puissent représenter pour des victimes de tous les côtés, on va dire, et non pas certaines victimes seulement. La possibilité de refléter par ces dossiers certains des conduites particulièrement, particulièrement, oui, je disais représentatives des souffrances, mais représentatives aussi de ce que ce conflit a généré en termes d'utilisation, par exemple, d'armes chimiques, ce que d'autres conflits n'ont pas connu, en termes de particulier ciblage d'une population civile.
Où il y a des spécificités,
vous
voulez dire.
Voilà, oui, tout à fait. Donc des crimes des crimes emblématiques de la situation syrienne. Et là, une fois encore, avec la volonté de que les victimes qui ne verront pas leur cas particulier traité par la justice, au moins se retrouvent dans la sélection que nous effectuons. Et puis, effectivement, essayer de se pencher sur ces comportements répréhensibles en droit pénal qui ont pu alimenter le conflit et le faire perdurer.
Vous parlez de la gravité.
Quand je parle d'alimenter le conflit, je veux dire alimenter la commission des crimes, excusez-moi.
Je vous en prie. Vous parlez de la gravité des crimes, puisque vous êtes chargée, Catherine Marquis-Huel, au sein du mécanisme international impartial et indépendant de l'ONU 2, vous êtes chargée de la collecte de preuves des crimes graves en Syrie. Et vous disiez tout à l'heure que c'était important pour vous de rappeler l'ampleur de ces crimes, non seulement la gravité de chacun, et vous dites que c'est emblématique de ce conflit, mais aussi l'ampleur, c'est-à-dire la quantité de crimes que vous collectez aujourd'hui. Comment arriver à ne pas se laisser trop affecter par ce qu'on entend, par ce qu'on voit, par ce qu'on recueille, même quand on est juge, experte comme vous l'êtes, puisque vous avez été juriste en chef des chambres du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, juge international aux chambres extraordinaires des tribunaux cambodgiens au sein de la mission des Nations Unies au Kosovo, et que, avant d'être nommée par Antonio Guterres à ce poste aujourd'hui, vous étiez également médiatrice à la commission du Conseil de sécurité chargée des organisations État islamique et Al-Qaïda. Donc vous n'êtes pas tombée de la dernière pluie, Catherine Marquiuel, mais quand même, vous n'en demeurez pas moins une femme sensible.
Je pense que si on n'a pas d'empathie pour les victimes, ça va être compliqué de faire ce métier, mais en même temps, il ne faut pas se perdre dans cette empathie. Le travail d'un juriste, comme c'est mon cas là dans ses fonctions, ou d'un juge ou d'un procureur, c'est aussi de savoir qu'il contribue à ce qu'ensuite il y ait un procès équitable. Donc ça veut dire aussi savoir douter des preuves qu'on a devant soi, ne pas conclure avant d'avoir fait le travail de fond nécessaire, savoir accepter d'entendre et d'essayer de comprendre ce qui peut avoir motivé les actes en question. On est, comme vous le dites, on reste des êtres humains et c'est un travail qui a un impact important sur les personnes qui le font. Il y a des collègues qui peuvent véritablement subir ce qu'on appelle un trauma secondaire. Je n'irai pas mettre en parallèle le traumatisme des victimes et celui d'une personne qui travaille à établir l'existence des crimes, mais c'est une réalité. Et donc il faut s'en prémunir. Je pense qu'il faut le faire en ayant une vie saine et une vie à côté du travail. Il ne faut pas se perdre entièrement dans le travail. Et puis, il faut savoir pourquoi on fait ce travail. Et ça vous aide à maintenir le cap, on dirait.
C'était hier la Journée internationale de la paix. Aujourd'hui, un peu partout en France, peut-être, je ne sais pas, en Suisse où vous êtes, sont organisées des marches pour la paix. Est-ce que vous diriez, Catherine Marquiuel, que le droit international pénal, qui sert à lutter contre l'impunité, quand même, est un facteur de paix?
Alors, tout le monde ne le voit pas comme ça. Moi, je pense.
Oui, non, certains responsables politiques considèrent la justice comme un obstacle parfois aux négociations de paix.
Oui, on entend souvent ça. Honnêtement, quand un pays tout entier, une population entière a subi les violences et les crimes dont nous parlons, je ne pense pas qu'on puisse durablement établir une paix et penser à une réconciliation sans qu'il y ait de responsabilité pour les crimes les plus graves. Ça, j'en suis convaincue et je le dis sur la base d'une expérience. Vous avez rappelé mon travail dans divers contextes de conflits et de crimes. J'ai également travaillé sur les dossiers du Rwanda lorsque j'étais à la chambre d'appel du tribunal pour l'ex-Yougoslavie qui était commune. Donc, je pense que il faut arriver à trouver un moyen de faire en sorte que la justice fasse son cours. Les victimes y ont le droit et je ne pense pas que les plaies béantes que la Syrie vit encore aujourd'hui pourront cicatriser durablement si on n'en passe pas là. Alors oui, effectivement, c'est peut-être pas l'agenda principal de ce qui est actuellement actif pour essayer de terminer ce conflit. Et évidemment, il faut que ce conflit s'arrête, mais il faut penser à la justice, il faut penser à l'avenir de la Syrie et qu'elle puisse, elle aussi, prendre sa part dans cet effort de justice un jour.
Est-ce que la justice internationale, pour vous, fait des progrès au-delà du cas de la Syrie dont vous vous occupez? Est-ce que la justice internationale fait des progrès ou régresse dans le monde?
Il y a un peu des deux, on va dire. C'est-à-dire que moi, franchement, quand j'ai rejoint le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie en 2002, on avait un sentiment, je crois, parmi les collègues qui travaillaient avec moi, de participer à une nouvelle ère. Les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale, les procès de Nuremberg et de Tokyo étaient derrière. On était vers une nouvelle ère où la communauté internationale réagissait et venait dire au monde pas d'impunité pour ces crimes. Ce mouvement s'est accentué quand la Cour pénale internationale a été créée, avec une vocation, même si le traité de Rome n'a pas été ratifié de manière universelle, une vocation à pouvoir juger les crimes à l'avenir. Et puis on voit, avec la situation syrienne et d'autres situations, on voit que finalement la politique peut bloquer le recours à ces instances internationales. Et donc, quelque part, c'est une forme de régression. Mais moi, je prends le signe très fort que l'Assemblée générale a envoyé aux victimes en Syrie et aux autres victimes, d'une certaine manière, de dire ces blocages ne sont pas acceptables. La justice doit passer. Et donc, même si on n'a pas en ce moment la possibilité de renvoyer ces affaires devant un tribunal, on va en tout cas faire le travail préparatoire qui permettra que cette justice fasse son œuvre.
On entendait sur France Culture, hier soir, rediffusé ce matin, le magazine de la rédaction sur les crimes du franquisme et la parole d'un juge comme Balthazar Garçon, qui a été écarté précisément par le pouvoir du fait de son travail sur les crimes du franquisme. Est-ce que vous avez le sentiment, Catherine Marquis-Huel, que le métier est peut-être plus difficile quand même à exercer dans certaines conditions aujourd'hui?
C'est un métier, on en revient sur l'un des i de mon mandat, l'indépendance, c'est-à-dire c'est un métier difficile bien sûr, mais être indépendant, vous savez, vous aurez toujours des obstacles, que ce soit un manque de volonté de coopérer avec votre mandat, que ce soit une dépression éventuelle qu'on pourra essayer de faire sur vous. Je pense que les personnes qui travaillent et qui œuvrent à la justice doivent être capables de résister à ces formes de d'obstacles, et je pense que la formation que j'ai de magistrat me prépare bien à ça. Bien, si j'ai réussi à résister aux pressions et aux obstacles, et je pense que je suis guidée, comme toute mon équipe d'ailleurs, uniquement par le mandat qui nous a été confié par l'Assemblée, qui est un mandat complexe, mais dont nous ne sommes pas anéantis du tout par l'ampleur et la complexité du mandat. Nous sommes stimulés, nous savons que nous devons aider à apporter cette justice aux victimes, et nous comptons bien le faire.
Et peut-être, comme la juriste et professeure au Collège de France, Mireille Delmas-Marty, croyez-vous, vous aussi, aux forces imaginantes du droit? Catherine Marquis-Huel, vous avez donné une conférence de presse jeudi, vous avez annoncé avoir collecté donc 900 000 documents, l'ouverture de 2 dossiers d'enquête a été annoncée d'ici la fin de l'année, vous avez aussi déclaré avoir reçu 7 demandes de la part de 3 autorités judiciaires nationales européennes. Est-ce qu'on doit se réjouir?
On ne peut pas se réjouir quand on a en face de soi des milliers, des millions de victimes de crimes. C'est pas possible. Mais on peut se satisfaire de voir que on est en train de faire les choses qui doivent être faites pour que la justice avance dans cette complexe situation syrienne. Un des éléments d'espoir que je vois aussi, c'est que finalement le cadre juridique qui a été institué par le traité de Rome, le système du traité de Rome, si on peut l'appeler comme ça, c'est un système où on est passé de ce que moi j'ai connu avec les tribunaux ad hoc, c'est-à-dire une justice internationale ayant la primauté, et puis au bout d'un certain temps, on renvoyait des affaires devant les juridictions nationales. On est passé à l'inverse quelque part. C'est un système maintenant de complémentarité. La justice internationale agit quand la justice nationale n'est pas en mesure de le faire. C'est pas en Syrie en ce moment que ces procès peuvent se tenir. Et donc, un certain nombre de juridictions, je pense aux juridictions françaises, allemandes évidemment, suédoises, et bien d'autres, en Europe et pas seulement, elles font leur travail. Un certain nombre d'entre elles utilisent la base de compétences qui est à leur portée, qu'elle soit universelle ou extraterritoriale, et elles font ces enquêtes dont je parlais tout à l'heure. Elles ont tenu quelques procès. Ça, c'est réjouissant quelque part, parce que ça veut dire que peut-être le mode de réponse aux crimes internationaux auxquels nous faisons face sera plus forte parce qu'elle sera multiple. Et moi, le mécanisme que je dirige actuellement, il veut se saisir de toutes ces opportunités-là.